Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour la vie. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes de venir ici à l'église pour t'adorer, pour te louer, Seigneur, pour communier ensemble, pour expérimenter ta présence. Merci, Seigneur. Et merci également pour le privilège que tu me donnes de me tenir derrière cette chaire pour conduire ces moments de méditation. Seigneur, je me recommande à toi. Je demande ta grâce sur moi, Seigneur. Je prie au Dieu de gloire que je sois un simple instrument. Parle par moi, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, que je me mette à informer ton peuple sur des choses qui te concernent, mais toi-même parle. Par moi. Et bénis cette parole, Seigneur, sur mes lèvres. Bénis-la dans nos cœurs. Bénis les bien-aimés qui nous suivent via les médias, Seigneur. Élève Jésus pendant ces moments. Glorifie-les, Seigneur, et édifie-nous. Guéris les malades. Sors-nous des situations difficiles que toi, tu n'as pas permis dans nos vies. Au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Merci au Seigneur pour ce moment, pour ce culte et pour ce privilège, cette grâce qui me fait de me tenir devant vous pour conduire tout simplement ces moments de méditation. Je sais qu'au-delà des paroles que je vais libérer ici, le Saint-Esprit lui-même va s'adresser à chacun de nous. Le Saint-Esprit va te parler personnellement et il va t'orienter par rapport à ce que tu devras faire. Merci à notre pasteur, Joseph Bondo, pour la confiance. Et pour moi, c'est vraiment une responsabilité que de me tenir ici pour annoncer sa parole. Merci à ses collaborateurs, au comité. Merci à ses deux assistants, le pasteur Roger, le pasteur Alain. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons dans Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 12, du 1er au 19e verset. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets la ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Hérode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, « Annoncez-les à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fut jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Amen. Et nous pouvons attendre. Frères et sœurs, nous sommes là dans le livre des Actes des Apôtres, portion de la Bible qui nous parle de l'Évangile, de la propagation de l'Évangile. Et nous pouvons commenter cela en disant de l'accomplissement du plan de Dieu. Le Seigneur a toujours un plan pour chacune de nos vies. Le Seigneur a toujours un plan pour l'Église en général et pour les églises locales. Et ce plan, lorsque nous regardons ici, dans cette expérience, et même dans tous les livres des Actes des Apôtres, se réalise avec, dans un contexte d'opposition. Il y a des oppositions. La volonté parfaite de Dieu est que la parole, sa parole, l'Évangile soit prêché à tous les peuples. Mais le contexte dans lequel cette volonté se réalise, ce plan se réalise, c'est un contexte marqué de barrières, des oppositions, des réalités qui ne se prêtent pas à permettre au plan de Dieu de s'accomplir. Mais le Dieu de ce plan, il est au-dessus, il a ascendance sur toutes ces oppositions. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a les différentes cultures, il y a les différentes politiques, il y a différentes religions qui ne sont pas prêtes à permettre à cette promesse, à la volonté de Dieu, au plan du Seigneur de se réaliser. C'est la raison de toutes ces persécutions, c'est la raison de toutes ces difficultés vécues par les disciples et par les apôtres, dans l'objectif de les empêcher, dans l'objectif de les menacer, de les décourager, dans l'ordre que le Seigneur lui-même leur avait donné. Mais cette expérience nous montre que Dieu est grand. Cette expérience nous montre que Dieu est puissant. Dieu est tout puissant. Ce qu'il désire accomplir dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, il le fera. Dans une église, il accomplira. Pourquoi? Parce qu'il vit par lui-même. Son existence est indépendante. Dieu ne dépend pas des hommes. Dieu ne dépend pas des systèmes politiques. Dieu ne dépend pas des contextes. Il dépend de lui-même. Il est tout puissant. Il dispose de tout. Tout ce qu'il va accomplir en son temps, il le fait. Jacques était mis à mort, comme nous l'avons lu. Et peut-être celui qui l'a fait, il s'est dit que voilà, moi Hérode, j'ai une position politique qui me permet de mettre fin à la vie des gens. Mais en réalité, ce n'est pas lui vraiment qui a mis fin au parcours de Jacques. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même dans son plan qui avait prévu que Jacques soit le premier apôtre à vivre le martyr, à suivre le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui l'a voulu. Lui, il n'était qu'un instrument. Certaines situations qui nous arrivent, que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos vies, au fait, des fois, nous disons que Seigneur, pourquoi ça? Mais en réalité, il y a Dieu. Si nous marchons avec le Seigneur, si nous avons la foi, si nous sommes des enfants de Dieu, nés de nouveau, nous avons nos regards rivés sur le Seigneur, tout ce qui nous arrive concourt à notre bien. Dieu utilise les chrétiens, Dieu utilise ses serviteurs, Dieu utilise les non-croyants pour accomplir sa volonté dans nos vies et dans nos églises. Mais pour Pierre, Dieu n'avait pas résolu qu'il parte à cette époque. Le Seigneur avait un plan pour Pierre. Il devait écrire les épîtres. Il devait enseigner. Voilà pourquoi ces complots de Hérode avec ses contemporains a échoué contre la volonté du Seigneur. Pierre est libéré. Il était emprisonné. Toutes les dispositions étaient prises pour vraiment qu'il ne soit pas en mesure de s'échapper. Il était surveillé, il était lié, il était mis dans une pièce compliquée. Mais tout ça, c'est rien pour le Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il prend la décision d'accomplir quelque chose, il le fait. Et l'Église était là en train de prier. Nous lisons certaines choses comme ça, mais nous n'avons pas peut-être les accents, nous n'avons pas les exclamations, nous n'avons pas le ton sur lequel les frères de l'époque priaient. Mais ils priaient, c'est vrai, ils étaient conduits par l'Esprit, ils étaient en train de prier, mais ils étaient également des hommes, ce qui fait qu'en priant par moment, ils se disaient, est-ce que Pierre ne sera pas mis à mort comme Jacques? Ils priaient, et là, il y a un miracle, quelque chose qui se signale dans la vie de Pierre, dans la prison, et donc dans l'église. Quelqu'un peut appeler ça visitation divine. Quelqu'un d'autre peut appeler ça intervention divine. Mais nous pouvons aussi considérer cela comme un triomphe. Parce que là, il y a un plan. Il y a des hommes et des femmes qui doivent se lever, qui doivent se mettre en mouvement pour prêcher la parole de Dieu. Il y a le plan de Dieu qui doit se réaliser, non seulement dans cette église, et même dans la vie de tous ceux qui doivent écouter cet évangile. Et tous ces défis, le Seigneur le relève. Et ça, c'est un triomphe. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais parler de la vie d'une église triomphante. La vie d'une église triomphante. Ici, nous sommes dans une église. C'est une église qui est à l'activité. C'est une église qui travaille à l'accomplissement du plan de Dieu. C'est une église qui s'est levée pour obéir à la parole de Dieu. Mais sur son chemin, il y a des pots de bananes. Sur le parcours, il y a des défis, il y a des oppositions. Mais malgré cela, la volonté de Dieu se réalise. Et c'est ça même le thème du livre des Actes des Apôtres. La propagation triomphale de l'évangile, malgré les oppositions, malgré les plans, malgré les stratégies du monde des ténèbres, malgré l'activité démoniaque, malgré l'occultisme, l'évangile a été prêché et est prêché aujourd'hui et sera encore prêché. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais nous voyons ici, c'est une église. C'est des hommes comme vous et moi que le Seigneur utilise. Ici, dans la Bible, dans le passage que nous venons de lire, le contexte est celui de la propagation de l'Évangile. Mais nous pouvons contextualiser cela à nos vies, aux différents aspects, tâches de l'Église, en parlant de l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. L'accomplissement du plan de Dieu dans ma vie. L'accomplissement du plan de Dieu pour notre Église. Le Seigneur a un plan pour l'Église là-bas. Le Seigneur a un plan pour ton Église, bien-aimé, toi qui me suis via les médias. Le Seigneur a un plan pour les familles. Le Seigneur a un plan pour les couples. Le Seigneur a un plan merveilleux pour nos enfants. Ces plans-là, c'est lui seul qui les a conçus. Seul, Il n'a pas eu de conseiller pour le concevoir. Il n'a pas conçu. Et puis il a appelé un groupe d'experts pour valider, pour souligner les erreurs. Non, lui-même conçoit, valide, exécute, manifeste sa gloire, manifeste sa fidélité. Il est l'Éternel, la vie de cette église. Bien-aimés, ici, la première chose que nous constatons lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que c'est des frères et sœurs en Christ qui prient. Une église triomphante, bien-aimés, c'est une église à majorité constituée des hommes et des femmes nés de nouveau, transformés par la puissance du Saint-Esprit. Ils étaient tous transformés. Ils avaient tous un arrière-plan culturel. Ils avaient tous un passé. Mais au contact avec la puissance de la croix, ils ont été tous transformés. Ils n'ont pas été améliorés, mais transformés. Lisons un peu deux passages dans la Bible. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que ces bien-aimés avaient expérimenté. Ils avaient des choses passées. Ils avaient des choses passées. Les Samaritains, chacun avait sa culture. Mais, bien-aimés, chacun avait sa personnalité. La personnalité est restée la même. Mais transformée par l'Évangile. Si nous voulons vivre des grandes choses, bien-aimés, personnellement et même de manière collective en tant qu'Église, nous devons prier de telle sorte que Dieu transforme nos vies, que le Seigneur transforme nos vies, et même leur façon de voir les choses a changé. Parce que normalement, dans cette circonstance-là, naturellement parlant, ils devaient fuir, ils devaient se dire, ils devaient devenir réalistes, ils devaient se dire que vous voulez blaguer Jacques, le grand Jacques, l'apôtre Jacques, c'est lui qui nous a dirigés. C'est lui qui était rempli du Saint-Esprit. Il a parlé en langue avec nous, mais on l'a tué. Pourquoi rester ici? Non, ils n'ont pas fait ça. Ils avaient une autre vision. Lisons dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Leur façon de voir les choses avait changé, bien-aimés. Leur carte mentale, comme les experts aiment le dire, a été changée. Ils avaient la carte mentale du Seigneur, du royaume des cieux. Ils voyaient les choses comme des êtres transformés. L'intelligence était transformée. La lecture de faits était la lecture du royaume des cieux. Ils n'avaient pas une lecture tribale. Ils n'avaient pas une lecture de faits charnels. Leur grille de lecture des choses était donnée par le royaume des cieux, le royaume de Jésus-Christ. Par la mort de Jacques, ils ont vu là que la fidélité d'un serviteur envers son Dieu s'était manifestée. Au lieu de voir qu'ils étaient là en train de sombrer dans un chaos, ils n'ont pas appelé ça chaos, ils ont appelé l'accomplissement de la parole de Dieu, la manifestation de la fidélité d'un enfant de Dieu envers son Dieu, la manifestation de la gloire du Seigneur. Si nous voulons aborder avec succès, bien-aimés, les défis qui nous guettent, les défis qui s'opposent, qui se présentent devant nous dans la marche chrétienne en général et dans la marche de service, dans l'accomplissement du plan de Dieu, nous devons affronter ces défis avec un regard que le royaume des cieux nous prête. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin un regard que le royaume des cieux nous prête? Le royaume des cieux a sa façon de voir les choses. Sa façon de voir les choses. Là où les autres peuvent voir que voilà ça, c'est un champ d'intérêt, c'est un champ de bataille. Pour le royaume des cieux, on vous dit non, non, c'est un champ missionnaire. C'est un champ missionnaire. Là où les autres peuvent dire que non, 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 c'est fini, c'est fini. Il ne peut pas aller de l'avant. Cet enfant, il faut le déclasser. Il faut l'envoyer loin. Mais le royaume des cieux dit que non, 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 c'est un futur gagneur d'âme. C'est un futur chantre. C'est un futur pasteur. C'est un futur prédicateur de l'évangile. Nous devons toujours voir tous les défis qui se présentent à nous avec les yeux de la foi, avec les yeux de l'Évangile, avec un cœur transformé par l'Évangile. Et voilà pourquoi ces gens qui étaient transformés par l'Évangile étaient vraiment concernés par les responsabilités que le Seigneur donne à tous ceux qui sont nés de nouveau. Vous savez, lorsque nous venons à Christ, le Seigneur nous accueille tel que nous venons. Nous demandons pardon, nous jouissons de son pardon, mais il ne nous laisse pas comme ça. Le Seigneur fait un travail par son Saint-Esprit dans nos cœurs. Le Seigneur transforme nos cœurs et il y a des désirs qui naissent. Avant, peut-être, nous n'aimions pas à toucher la Bible et après avoir passé par la nouvelle naissance, comme c'est le cas de nos bien-aimés qui sont passés aussi par après par les eaux de baptême, il y a de nouveaux désirs. Nous pouvons désormais aimer la parole de Dieu. Nous pouvons désormais aimer les choses de Dieu. Le Seigneur nous donne la capacité d'obéir à sa parole. Voilà pourquoi ce que le Seigneur demande à un homme transformé, c'est ce qu'il peut faire. Lorsque le Seigneur nous transforme, il peut nous demander de ne pas voler. C'est normal. Amen. Une personne transformée ne doit pas voler. Le Seigneur, après avoir fait ce travail en nous, il peut nous demander et il nous demande de l'aimer. Je vais lire quelques passages ici par rapport à ça. Il est dit lui-même, prenons Jean 21, verset 17. Jean 21, verset 17. Et nous voyons là, le Seigneur parlait à Pierre. Il lui dit, pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé. Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois. « M'aimes-tu ? » Et lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En d'autres termes, Jésus-Christ attend de nous en tant qu'enfants de Dieu, né de nouveau, transformé, que nous puissions l'aimer. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que nous devons aimer le Seigneur? Tu peux dire à ton voisin que nous avons la capacité d'aimer le Seigneur. Parce que le Seigneur ne peut pas nous demander ce que nous ne pouvons pas faire. C'est le meilleur leader qui soit. Il dit que son joug est doux et léger. Le Seigneur ne peut pas te demander de transporter les choses qui sont au-delà de tes forces. Lorsqu'il nous demande de l'aimer, il sait qu'avec le travail qu'il a abattu par son Saint-Esprit en nous, nous avons la capacité de l'aimer. Et nous devons l'aimer. Et ces bien-aimés vivaient comme ça. C'était des gens qui étaient attachés au Seigneur. Ils étaient transformés et ils avaient la responsabilité de marcher selon le Seigneur. Regardons un peu, retournons un peu à ces récits. Voyons ce qui se passe. J'étais en train de dire que la réaction naturelle, la réaction normale de ces gens, c'était, n'est-ce pas, de reculer, de fuir, ou de devenir diplomate, ou de commencer à dire que je ne suis pas. Non, mais ils sont restés là. En d'autres termes, il y a l'écho de la parole de Dieu qui continuait à résonner dans leur cœur. Parole par laquelle, par exemple, Jésus leur avait dit que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Parole par laquelle le Seigneur leur avait dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Parole par laquelle le Seigneur leur avait demandé de rester unis. Toutes ces recommandations-là étaient vécues par ses frères et sœurs. J'étais en train de dire, bien-aimé, qu'une église triomphante, c'est une église, n'est-ce pas, constituée en majorité des personnes, des hommes et des femmes, transformées par la puissance du Saint-Esprit et attachées à la parole de Dieu. Attachées à la parole de Dieu. Il y a une corrélation entre l'attachement à la parole de Dieu et le fait d'expérimenter le triomphe de la croix de Golgotha, la visitation divine. Déjà dans l'Ancien Testament, dans Josué chapitre 1, verset 8, livre consacré à la conquête, là le Seigneur avait tout fait et le Seigneur donne quelques conseils à Josué. Le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que ce livre de la loi, ce livre-là contenait la loi, contenait la parole de Dieu. Il dit, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Les entreprises ici, c'est quoi? C'est la conquête. C'est l'accomplissement du plan de Dieu. Et nous voyons le Saint-Esprit, n'est-ce pas, confirmer ces vérités dans Jean chapitre 15, de verset 1 à verset 8. Jean chapitre 15, de verset 1 à verset 8. Dans ce passage, la parole de Dieu dit ceci. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Ici, nous voyons par cette parole, le Seigneur parlait, n'est-ce pas, des sarments qui sont fertiles et des sarments qui ne sont pas fertiles. Des sarments fertiles et des sarments qui ne sont pas fertiles, stériles. Et ici, les stériles seront jugés, seront jetés, mais les fertiles vont produire du fruit et il donne une promesse quelque part en disant que si nous ressemblons à ces sarments fertiles, donc nous restons attachés à sa parole, pas aux paroles des hommes de Dieu, mais à sa parole. Si nous restons attachés à sa parole, si nous demeurons dans ça, si nous mettons sa parole en pratique, et lui dit, nous pouvons demander tout ce que nous voulons, il va nous le donner. Et c'était la vie de cette église. Voilà pourquoi ils ont demandé et Dieu a agi. Ils ont demandé et ce qu'ils ont demandé, parce que parfois nous demandons ce qui ne correspond pas avec la volonté de Dieu, mais parce que ça correspondait avec la volonté de Dieu, et le Seigneur a agi. Le Seigneur savait que ses frères, dans leur cœur, ils priaient pour la libération de Pierre. Et par la libération de Pierre, ils avaient compris que l'évangile devait continuer à être prêché. Et le Seigneur a manifesté sa gloire, l'attachement à la parole de Dieu. L'attachement à la parole de Dieu. C'était la vie de ses bien-aimés. Frères et sœurs, il y a vraiment un pont entre l'attachement à la parole de Dieu et les grandes choses que nous pouvons vivre. La visitation divine, la délivrance de certaines difficultés. Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu. Mais l'Église ici a vu Dieu. Voir Dieu dans l'éternité, mais voir Dieu dans nos vies. Voir Dieu dans l'éternité, mais voir Dieu dans nos églises. Et ici, c'est une église d'hommes et de femmes qui marchaient dans sa parole. La Bible et sa parole étaient la norme fondamentale pour leur marche. C'était la norme fondamentale. Lorsque nous allons dans l'Apocalypse, nous voyons le Seigneur faire des reproches aux églises de manière collective. C'est-à-dire le Dieu qui veut que chacun de nous marche personnellement dans sa crainte. Le Dieu qui veut que chacun de nous marche sous la guidance, sous l'autorité de sa parole, c'est le même Seigneur qui veut que nos églises, nos collectivités spirituelles marchent également sous la guidance de sa parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le temps me manquerait de lire Ésaïe chapitre 59 verset 1 à 2 qui nous montre qu'il y a une relation entre marcher dans la crainte de Dieu et vivre les grandes choses. Peut-être, frères et sœurs, cette parole qui n'est pas seulement adressée à vous, qui m'est adressée premièrement, peut-être que ce matin c'est un moment encore pour considérer nos marches, considérer nos paroles, considérer nos pensées et si nécessité il y a, dire, placer un mot devant le Seigneur dans le sens de la repentance. La parole de Dieu nous montre que Dieu pardonne à toute personne qui se tourne vers lui. Il pardonne. Et lorsqu'il pardonne, il n'est pas obligé d'attendre 10 jours pour agir dans ta vie, d'attendre 10 jours pour agir dans ton église. Il peut le faire tout de suite. Parce qu'une personne pardonnée pour le Seigneur, c'est une personne libérée. Une personne pardonnée pour le Seigneur, c'est une personne dont la culpabilité est vraiment brisée. Amen. Ces bien-aimés, comme je le disais, c'est des gens qui avaient chacun un arrière-plan. Chacun avait son histoire. Ils venaient de quelque part. Mais touchés par la parole de Dieu, transformés par la puissance du Saint-Esprit, ils ont là réalisé qu'il y a nécessité de vivre ensemble. De vivre ensemble. Et si nous jetons un coup d'œil à ce vivre ensemble, il y a des ressemblances entre le vivre ensemble familial dans nos familles biologiques, mais il y a aussi des innovations. Dans Actes 2, verset 42, il nous est dit là que parmi les choses qui caractérisaient l'Église primitive, il y a la communion fraternelle. Il y a l'unité. Comme Psaume 133 nous le montre, la nécessité de vivre dans l'unité. Ils vivaient dans l'unité. Le problème de Pierre était leur problème. Ce n'était pas son problème à lui. Ce n'était pas une erreur du ministère. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit que Pierre a manqué de sagesse. Il n'a pas dit que non, Pierre aussi, c'est vrai, il est appelé, mais sa façon d'interpeller les gens, sa façon de s'adresser aux autorités n'est pas bonne. Non! Ils ont considéré que Pierre est leur frère. Ils ont considéré cela. Ils se sont dit que non, non. Comme Pierre est arrêté, nous, en tant que corps, il y a une cellule qui nous manque. Vous savez, l'Église, c'est un corps. Et chacun de nous peut être considéré comme une cellule. Alors, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas saisi l'opportunité pour dire que non, Pierre, c'est une cellule cancéreuse. Il faut le mettre à part. Non. Ils ont continué à croire en Pierre. Ils ont continué à croire que Pierre a un rôle à jouer, n'est-ce pas, dans le corps, dans l'église, dans la famille. Une église triomphante, bien-aimée, c'est une église qui fonctionne comme une famille. Nous sommes une famille. Il est difficile de voir dans des familles vraiment éduquées, bien encadrées, voir quelqu'un regarder son frère du haut de son élévation ou bien de son niveau intellectuel. Regardez que toi aussi, tu es mon frère. Tu es mon frère. Toi, on peut parler avec toi parce que nous sommes ici. Non, non. Les frères se respectent. Les frères se considèrent. Les frères n'ont pas placé de glace. Toi, pour entrer dans ma chambre, il faut une audience. Le matin, avant de me saluer, il faut voir, il faut regarder mon humeur. Non. Les frères se saluent. Les frères se posent des questions. Les frères se sentent concernés par la rentrée scolaire de notre frère qui n'a pas assez de moyens. Les frères se sentent concernés par les défis que connaît un autre frère lorsque il se rend compte que dans la famille de mon frère, il y a un enfant rebelle, ce n'est pas une opportunité pour se moquer de lui. Au contraire, c'est un sujet de prière. C'est une opportunité de s'approcher de lui pour prodiguer un conseil. Les frères ne se combattent pas. Ils ne se combattent pas. Même dans des églises nantis comme les nôtres ici, comme la nôtre ici, où il y a quand même, il y a d'autres activités, les frères ne se regardent pas en disant que lui, il est là. Le jour où il va commettre une faute, il partira. Non, non. Les frères ne vivent pas comme ça. Au contraire, tu dois regarder ton frère, tu dois regarder ta sœur et dire que, ah, gloire à Dieu, ce travail l'aide quand même à nouer les débuts du mois. Le frère sème. Lorsque un frère intervient, les frères ne sont pas là à noter les erreurs, pas pour corriger, mais noter les erreurs pour en parler à une autre personne. C'est l'amour. Mais cet amour cimenté par l'œuvre de la croix. Et ils en étaient conscients. Et Dieu, n'est-ce pas, nous donne plusieurs promesses dans Psaume 133, dans Jean 17, concernant la communion fraternelle. Il y a beaucoup de choses qui se sont accomplies dans nos vies, dans le contexte de la communion fraternelle. La traversée de la mer Rouge, ce n'était pas une seule personne. C'était un groupe, c'était une famille. Une famille que Dieu avait mise à part. Une famille que Dieu avait délivrée de l'esclavage des pharaons. De l'esclavage de l'occultisme. Dieu descend et délivre cette famille-là. Et maintenant, il ne dit pas que Moïse traverse seul. Ou bien il y a d'autres qui étaient là, ils regardent et disent que hey, moi je traverse, moi j'essaie de nager. Non. Dieu a ouvert, a séparé la mer pour toute la famille. Et Dieu est prêt à séparer la mer. Dieu est prêt à nous donner une expérience de traversée en tant qu'église, en tant que groupe. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et pour cela, nous devons être soudés. Nous devons nous aimer. Nous devons ôter toutes sortes d'obstacles. Âge, comme l'a dit un serviteur de Dieu quelque part. Âge, origine ethnique, sexe, moyen, niveau social. Nous devons mettre ça de côté. Et même certains obstacles qui sont mentionnés dans la Bible. L'indifférence. Après le culte, tu peux saluer peut-être le prédicateur. Tu peux saluer peut-être les anciens. Tu peux saluer peut-être les responsables. Et puis, tu sors. Nous venons ici pour adorer le Seigneur. Nous venons ici pour louer le Seigneur. Mais nous venons aussi pour expérimenter la communion fraternelle. Tu peux saluer un bien-aimé. Tu peux secouer sa main. Tu peux lui poser la question, ça va mon frère? Et ça lui fera du bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est une famille qui a expérimenté la descente du Saint-Esprit, la Pentecôte. Ils étaient là ensemble. Ils s'étaient acceptés. Malgré leur origine, malgré leur niveau, ils étaient ensemble. Et lorsque nous regardons la façon de travailler, Paul, le grand Paul, le docteur Paul, collaborait avec Pierre et Jean. Il les considérait. Dieu a mis des choses dans l'être humain, surtout dans l'enfant de Dieu, que les doctorats, que l'argent, que les niveaux sociaux ne peuvent pas donner. Amen. Dans ton frère, dans ta sœur, il y a des choses, il y a des bénédictions que tu ne peux pas trouver à l'université, que tu ne peux pas trouver dans des bureaux climatisés, que tu ne peux pas trouver dans une banque, dans la vie de ton frère et de la sœur qui est à côté de toi. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta sœur qui est à gauche, à droite, que tu es une bénédiction pour moi? Tu as quelque chose que l'université ne pourra pas me donner. On peut acclamer le Seigneur. Et deux autres choses avant de terminer, comme nous le savons, le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre qui met en évidence l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Toutes ces conquêtes, tous ces défis relevés le sont grâce à la présence du Saint-Esprit. En d'autres termes, cette église-là était composée d'hommes et de femmes de l'Esprit. C'était des hommes de l'Esprit. Et nous le savons, que lorsque nous nous laissons orienter, guider par le Saint-Esprit, nous allons bien voir l'invisible. Et lorsque nous voyons l'invisible, comme cela nous est prêché ces derniers temps, nous pouvons percer, nous pouvons aller loin. Avec le Saint-Esprit, les yeux humains voyaient la prison. Mais avec la présence du Saint-Esprit, il y avait cet espoir-là de voir Pierre sortir. Et ils ont prié. Ils ont prié. Et par la foi, Dieu a manifesté sa gloire. Bien-aimés, une église, enfin, c'est une église qui se laisse conduire par l'Esprit. Par l'Esprit. Par l'Esprit de Dieu. Par le Saint-Esprit. Pas par les sentiments. Pas par des choses planifiées. Pas vous visez quelqu'un. Vous visez quelqu'un. Et puis vous sortez une prophétie pour dire qu'il est sorcier. Je connais, il y a dans certaines églises, lorsque un frère est zélé, lorsque quelqu'un vraiment a duré dans l'église, il sert le Seigneur, et il y a des soi-disant personnes qui sont, et ils viennent à peine 2 ans dans le Seigneur, et en priant, attention, cet homme-là que vous respectez, Dieu m'a montré qu'il est dans l'occultisme. Faux. Faux et faux. Le Saint-Esprit, lorsqu'il agit, c'est pour construire. C'est pour édifier. Lorsque le Saint-Esprit agit, c'est pour convaincre les pécheurs. Et il est fait avec amour. Le Saint-Esprit s'est touché. Regardez Paul. Si Paul était devant nous, on allait envoyer le feu directement sur Paul. Mais l'Esprit de Dieu, lorsqu'il touche Paul, il fait voir la misère qui était attachée à sa vie et il fait connaître qu'il est un instrument, qu'il a de la valeur. Il n'a pas brisé. Bien-aimé, si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, les vies seront construites. Les vies seront restaurées. Les couples en danger seront restaurés. Les gens qui passent par des moments difficiles seront consolés. Et je peux aller loin même jusqu'à dire que les gens trouveront du travail. Les gens trouveront la réponse à leurs problèmes. Et conduits par l'Esprit, ils ont prié avec foi. Ils savaient qu'ils servaient un Dieu qui avait des oreilles. Un Dieu qui était capable d'entendre. Lui, Dieu connaissait seul. Mais dans sa souveraineté, il a pris la décision de travailler avec l'homme. Déjà à la création de l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Il y a déjà une amitié là qui est dans son cœur. Alors il veut que tu lui parles. Des défis de l'église. Des défis personnels. Et lui, il va agir comme il a fait dans ce passage que nous venons de lire. Que le Seigneur vous bénisse. Si cela ne vous dérange pas, nous pouvons nous tenir debout pour prier. J'aimerais qu'on parle au Seigneur par rapport à toutes ces vérités. Mais j'aimerais qu'on parle également au Seigneur par rapport à un défi. Défi, l'Église. Il y a la construction qui est là. Il y a peut-être des défis que tu constates. Le Seigneur, le Dieu de cette parole, il va agir. Et il y aura une histoire à raconter. Élevons nos voix et prions. Nous abandonnons entre tes saintes. Merci pour ta parole. Seigneur Dieu de gloire, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé, Seigneur. Ce que tu as accompli, Seigneur, dans la vie de Pierre, tu peux le réaliser ici. Seigneur, tu es capable de nous donner des expériences collectives ici à la borne. Tu peux le faire dans la vie de mon bien-aimé Seigneur, qui suit, Seigneur, ce culte, qui suit cette parole avec foi, avec amour, avec respect envers toi. Seigneur, interviens. Interviens, glorifie Jésus. Glorifie Jésus, Seigneur Dieu de gloire. Glorifie Jésus. Manifeste ta gloire, ô Dieu de gloire. Souffle sur ceux qui sont malades. Souffle ceux qui ont des problèmes de santé, de reproduction. Souffle sur les bien-aimés, Seigneur, qui ne viennent plus ici, qui ne viennent plus œuvrer, parce qu'ils sont condamnés, Seigneur Dieu de gloire, dans leur chambre et à la maison. Guéris-les, manifeste ta gloire. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen.